Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, c'est auditeur du titre du monde entier. Vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèle à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Surianto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, dimanche. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal, suivi le focus de la semaine et puis aujourd'hui dans l'histoire et la variété indonésienne. Et puis pour conclure notre information aujourd'hui, écoutez le don, le rappel de titre de l'actualité. N'oubliez pas, nous avons les rubriques hebdomadaires qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission avec la rubrique distraction, c'est-à-dire le courir, l'envo et la musique. Je laisse écoutez maintenant notre journal aujourd'hui.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie et le Mexique ont le potentiel d'améliorer la coopération. Le gouvernement indonésien refuse l'annexation de 21 villages dans Nunukan par l'autorité malaisienne. La ministre indonésienne de la Marine, Susi Pujiastuti, a reçu le prix WWF Leader. La ministre Susi a rencontré le secrétaire d'État américain aux États-Unis. Le programme Wonderful Indonesia est diffusé à la télévision française jusqu'en octobre. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre de l'Industrie de la République d'Indonésie, M. Erlangga Hartanto, voit le potentiel pour l'Indonésie et le Mexique à développer la coopération dans divers domaines. En commémoration de la Journée nationale du Mexique, dans la résidence de l'ambassadeur du Mexique à Jakarta, Federico Salas, récemment, le ministre Erlangga a déclaré que la coopération entre les deux pays pouvait être améliorée parce que l'Indonésie et le Mexique sont dans les mêmes forums internationaux comme G20 et l'APEC. Nous sommes les membres du G20 et aussi l'APEC. Il y a certainement le potentiel d'accroître la coopération. Jusqu'à présent, le commerce et l'investissement entre les deux pays ne sont pas encore atteints le point prévu. Selon le ministre Erlangga, l'Indonésie a investi au Mexique par Indorama, l'entreprise de textile célèbre en Asie basée en Indonésie. L'investissement est de plus en plus développé au Mexique. L'ouverture d'opportunités d'investissement par l'Indonésie, Erlangga espère que les deux pays puissent augmenter des affaires en utilisant la technologie ou ease of business. Le gouvernement indonésien, à travers l'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur, a déclaré que 21 villages dans la région de Nunukan, Kalimantan du Nord, une frontière entre l'Indonésie et la Malaisie, étaient dans de bonnes conditions. L'attaché politique de l'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur, M. Freddy Panggabean, à RRI, a déclaré vendredi que l'annexion de 21 villages à Nunukan et le développement dans cette région par l'autorité malaisienne n'était pas vrai. Il considérait que ces nouvelles ont émergé comme une tentative de déplacer la question pour accélérer l'approbation du gouvernement central sur la proposition de la nouvelle région autonome de la régence de Bumi Dayak Perbatasan.
Apa yang terjadi situ yang kelompok masyarakat yang ingin Mempercepat satu proses.
Sekitar di Villa Ba, il y a des gens qui veulent accélérer le processus parce qu'ils veulent être une région autonome à devenir un nouveau territoire. Malheureusement, la question est liée à la question de la frontière.
Tadi dikatakan soal masalah perbatasan gitu.
Freddy a demandé au public de ne pas être provoqué et de le voir comme un problème local, car il n'est pas la question de l'annexion.
Bagi kita ya kita harus ya masyarakat harus lebih boleh
pour nous la communauté devrait le voir comme un tout, que ce n'est pas une question de la frontière et non pas la question de l'annexion. Il est plutôt sur le développement des régions au sein de notre propre région. Nous espérons que plus de gens vont le voir comme les questions antérieures.
Masyarakat melihat ini lebih kepada pada isu yang lebih kepada isu-isu domestik saja ini.
Selon les rapports du commandant du district militaire de Nunukan et le chef de l'agence de liaison indonésien de l'armée nationale indonésienne à Kuching en Malaisie, ils ont tenu un dialogue avec les dirigeants de communautés locales et accueilli leurs aspirations pour que le gouvernement central puisse approuver immédiatement la nouvelle région autonome. WWF a présenté le prix de leader pour une planète vivante au ministre de la Marine et des Pêches, Mme Susi Pujiastuti, grâce à son contribution significative à la conservation de la nature et du développement durable. Cela a été dit par le directeur du programme du Coral Triangle du WWF Indonésie, M. Wawan Ridwan, dans une déclaration écrite reçue par Antara samedi. Au cours de sa carrière, Susi Pujiastuti a émis des politiques visant à protéger la santé des océans, y compris la ratification de l'accord sur les mesures portuaires de l'État, introduire de la taille minimale de capture pour certaines biotes, interdire l'utilisation de l'engin de pêche qui endommage l'environnement, établir des zones marines protégées et d'encourager la protection des espèces marines. L'Indonésie, avec le potentiel pour le secteur de la pêche abondante, actuellement devient le deuxième plus grand pays producteur de la pêche et l'aquaculture dans le monde. Mais les pertes d'État dues aux pratiques de pêche illégale atteignent 20 milliards de dollars américains par an. En tant que pays maritime, les actifs du secteur maritime de l'Indonésie doivent être protégés et gérés efficacement pour le bien-être de la société et la préservation de la planète. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre des Affaires étrangères de la Pêche, Mme Susi Pujiastuti, a rencontré le secrétaire d'État américain John Kerry à Washington, D.C., les États-Unis. Un rapport avec le lancement de la Global Fishing Watch ou l'augmentation de la surveillance des eaux territoriales. Grâce à la technologie de Global Fishing Watch, toutes les parties peuvent mobiliser public et privé dans le secteur de la pêche d'une manière responsable et durable. Cela a été dit par la ministre Susi dans un communiqué de presse au ministère de la Marine et des Pêcheries à Jakarta le vendredi. Global Fishing Watch a été officiellement lancé mondialement le jeudi 15 septembre, heure locale, en marge de la conférence Our Ocean 2016 à Washington, D.C., les États-Unis. La ministre des Affaires maritimes et de la Pêche de la République d'Indonésie, Mme Susi Pujiastuti, a assisté avec le secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry, dans une réception avant le lancement. La plateforme technologique de la collaboration entre Google, Oceana et SkyTruth a fixé l'Indonésie devient le premier pays dans le monde qui s'engage à partager des données du système de surveillance des navires ou Vessel Monitoring System. Et selon la ministre Susi, il était une étape importante et une nouvelle percée pour le gouvernement indonésien. Dans ce cas, le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, afin d'encourager les politiques d'application de la loi à l'échelle mondiale, afin de libérer les eaux indonésiennes des pratiques de pêche illégales. Le programme Wonderful Indonesia présente la beauté naturelle, la richesse des traditions et la culture, et aussi la gastronomie de l'Indonésie diffusé en deux chaînes de télévision françaises, M6 et W9, dans le programme de l'événement Horizon d'Asie, et ce programme était diffusé du lundi 12 septembre jusqu'au 20 octobre. Le programme est diffusé chaque lundi au vendredi à 12h40 jusqu'à 20h40 heure française. Sur les 40 épisodes du programme, l'Indonésie obtiendra une partie de la plupart des émissions, environ 15 épisodes. Selon Eka Monkari, du bureau Visit Indonesia Tourism Office à Paris. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie qui présentent de diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Gunung Kidul, Yogyakarta. Le vice-régent de la région Gunung Kidul, Imawan Wahyudi, a dit qu'il est prêt à devenir un pionnier de la mise en œuvre du système d'information de village, SID, à l'échelle nationale. Il a dit que SID se fonctionne très stratégique pour trois intérêts essentiels de la région. Tout d'abord, la collecte des données de la population globale. Deuxièmement, l'administration de la société dans son ensemble pour répondre aux différents besoins des données sur lesquels a la politique de base de décision à Gunung Kidul. Troisièmement, fournir une grande opportunité pour la croissance des activités de journalisme citoyen qui a trois grands principes de transparence, de responsabilité et équilibré. Selon Imawan, la mise en œuvre de l'information du village serait bénéfique pour fournir des informations exactes, approfondies et un gouvernement efficace dans l'établissement des politiques publiques qui seront mises en œuvre pour la communauté. Parmi eux, divers programmes de l'aide à la communauté afin que le gouvernement central pourrait être sur la bonne cible. Imawan a ajouté: jusqu'à aujourd'hui, il a préparé un des concepts complets et opérationnels pour la mise en œuvre du SID à Gunung Kidul. Même avec des qualifications différentes, la communauté de Gunung Kidul a exécuté SID en massif. La deuxième info vient de la ville Bau Bau, Sulawesi du Sud-Est. Des centaines de garçons de 5 ans ont jeté une petite cabane pas loin de la résidence. La cabane a été finalement effondrée et a été détruite après frappée par des pierres de différentes tailles. Certains résidents qui ont été témoins de l'incident donnaient des encouragements aux centaines de petits enfants à jeter correctement. Cependant, tous ces enfants ne jettent pas sur la bonne cible. Le chef traditionnel du village Bugi, district Sorawolio, ville Bau Bau, Sulawesi du Sud-Est, Junudin, a annoncé jeudi qu'elle fait partie d'une série de coutumes traditionnelles de circoncision de masse nommée Pihalatia. La cabane est jetée comme pour chasser les démons. Selon Junudin, la circoncision de masse est faite tous les 7 ans par les enfants dans le village Bugi. Les gens qui sont hors de la région reviennent également à la maison pour l'événement. La dernière info vient de la région Berau, Kalimantan Est. Le drapeau rouge et blanc géant se trouve sur le terrain de gymnasium de la région Berau, Kalimantan Est, lemeh kedi matang. Le drapeau a été volé par plusieurs 1800 élèves de 9 écoles secondaires et professionnelles du Cap Predep, la capitale de Berau, en formant des rangées de formation et la chorégraphie. La moitié des étudiants a soulevé des milliers de papiers rouges vers le ciel. Certains d'entre eux ont soulevé le papier blanc. Soyez rouge et blanc, qui étend sur environ 80 fois 40 mètres. La formation chorégraphie est devenue une partie de la déclaration anti-drogue de la communauté Berau. Cette déclaration est devenue l'une d'une série d'activités dans le 63e anniversaire de Berau le 15 septembre 2016. Berau devient l'un des transits de stupéfiants en provenance de la Malaisie. Il y avait peu de divulgation de stupéfiants avec un grand nombre dans ce quartier. C'était les infos de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Chers auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la voix de l'Indonésie. Nous allons commencer le 18 septembre 1931, incident de Mukden. Le 18 septembre 1931 a lieu l'incident de Mukden dans le sud de la Mandchourie, lorsqu'une partie d'une voie ferrée est détruite. Le Japon, qui craignait l'unification de la Chine, est très probablement à l'origine de l'attentat. Ils accusent ensuite les Chinois d'avoir volontairement perpétré cette attaque dans l'optique de la politique expansionniste, utilise ce prétexte pour envahir la Mandchourie. En chance, le 18 septembre 1943, naissance de la République sociale italienne. Alors que l'Italie allait décider de regagner sa neutralité face aux Allemands, le roi Victor Emmanuel III destitua Benito Mussolini, alors duce et ministre des Affaires étrangères, le fit mettre en prison. Craignant de perdre son allié, Hitler a envoyé la Wehrmacht dans le nord de l'Italie afin de libérer Mussolini et le replacer au pouvoir où l'opération enchaîne. Le 8 septembre 1943, l'Italie se rendait et devenait un état satellite d'Allemagne nazie. Le 18 septembre 1943, elle prit le nom de République sociale italienne ou République de Salo. Mussolini et le ministre des Affaires étrangères s'étant installés dans la petite ville de Salo sur le lac de Garde. On termine le 18 septembre 1948, proclamation de la Corée du Nord. Après la défaite japonaise de 1945, la Corée est occupée par l'armée américaine et l'armée soviétique de part et d'autre de 36e parallèle. Lorsque le parti septentrional se proclame République de Corée du Sud le 9 septembre, les États-Unis se retirent. Le parti nord riposte en devenant la République populaire de Corée ou RPC le 18 septembre, puis République populaire démocratique de Corée en décembre. En 1950, le Nord envahira le Sud. La guerre de Corée durera jusqu'en 1953. C'était notre aujourd'hui dans l'histoire de ce soir, l'édition le 18 septembre. À demain.
La voix de l'Indonésie. Soyez la première, soyez différente, soyez la meilleure.
Chers auditeurs et auditrices, voici les événements de la semaine. On va commencer les événements du lundi, le 11 septembre 2016. Radio République Indonésia, RRI, a célébré son 71e anniversaire. L'existence de RRI doit être optimisée pour fournir des services d'information au public. Ministère de la Communication et de l'Information, Rudy Antara, après avoir assisté à la célébration du 71e anniversaire de RRI à l'auditorium Abdurrahman Saleh, RRI Jakarta dimanche, a affirmé que RRI devait être en mesure de faire face à des défis de plus en plus complexes. Ce n'est pas seulement la compétition avec d'autres médias, mais aussi les médias sociaux qui sont plus utilisés par un certain nombre de personnes. Les événements du mardi, l'Union européenne lance la semaine de la diplomatie du climat en Indonésie. L'Union européenne, avec la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, organisent la semaine de la diplomatie du climat comme suivi du sommet des parties 21 ou COP21 à Paris et la préparation de la conférence sur les changements climatiques à Marrakech, COP22. L'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Guérin, mardi, lors du lancement de la semaine de la diplomatie du climat à Jakarta, a déclaré que la semaine de la diplomatie du climat visait à promouvoir la lutte contre le changement climatique et communiquer les objectifs du changement climatique au public. Au même jour, la ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, à Jakarta, a déclaré la conférence des parties COP22 sur le changement climatique qui se tient à Marrakech, le Maroc, est une mise en œuvre des résultats des accords conclus lors de la COP21 à Paris. Dans son discours à l'ouverture de la semaine de la diplomatie du climat de l'Union européenne, la ministre Siti Nurbaya a affirmé que COP22 à Marrakech est une occasion importante pour l'Indonésie de montrer son engagement dans la mise en œuvre de l'accord de Paris pour lutter contre le changement climatique conformément aux circonstances nationales. Alors, l'événement du mercredi, l'ancienne paix de l'Union européenne liée à la question des immigrants. L'ambassadeur de l'Union européenne à l'ASEAN, Francisco Fontan, a déclaré mercredi le 15 septembre au secrétariat de l'ASEAN que l'Union européenne et l'ASEAN pouvaient apprendre à surmonter les problèmes des immigrants. Les problèmes liés aux immigrants se sont produits dans diverses régions du monde, y compris dans la région de l'ASEAN. En Europe, la question des immigrants sont discutées dans le cadre de l'Union européenne à résolu à travers la coopération bilatérale et régionale. L'ASEAN, en tant que partenaire de l'Union européenne, peut apprendre les uns des autres et donner l'assistance aux problèmes qui deviennent maintenant l'attention du monde. Les événements du jeudi, l'Indonésie ne décide pas encore de rejoindre ou non dans le partenariat transpacifique. Le gouvernement indonésien continue de mener une étude à participer à la coopération commerciale du partenariat transpacifique. Le ministre du Commerce, Enggar Setiasto Lukita, a déclaré jeudi à Jakarta, en plus de mener des études sur les avantages de la coopération, le gouvernement attend également toutes les questions, y compris les conditions politiques aux États-Unis. Il a expliqué qu'avec toutes les possibilités politiques dans un certain nombre de pays, y compris les États-Unis, le gouvernement indonésien n'a pas encore été disposé à prendre une décision directe pour participer ou non au partenariat transpacifique, parce que la participation d'un pays affectera le sourcil de la coopération commerciale. On termine les événements du vendredi. L'Union européenne a lancé la première édition du livre bleu de l'Union européenne et l'ASEAN. Le livre donne la description sur le développement de la coopération de l'ASEAN, Union européenne et le pays membre. À l'événement de lancement qui a eu lieu à Jakarta le 14 septembre 2016, l'ambassadeur de l'Union européenne à l'ASEAN, Francisco Fontan, a transmis symboliquement le livre bleu à l'Union européenne et l'ASEAN au secrétaire général de l'ASEAN, de Luang Mint. Francisco Fontan a déclaré que l'Union européenne et l'ASEAN sont les principales régions intégrées dans le monde. L'Union européenne a engagé à intensifier la coopération et à ajouter les fonds de la coopération du développement. En augmentant la coopération entre l'ASEAN et l'Union européenne, les relations entre les deux régions resserreront. Chers amis, c'était les événements de la semaine, cette semaine.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans le magazine culturel Persona Indonesia. Pour aujourd'hui, nous vous présentons un plat de Probolinggo en province de Java Est nommé Ketan Kratok. Et alors, soyez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie, le service international de RRI. Outre par les zones courtes, vous pouvez écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Il y a tellement de nombreux objets touristiques intéressants dans la ville de Probolinggo, donc vous pourrez profiter si vous visitez cette ville, comme par exemple le parc des études environnementales, le port de Tanjung Tembaga, Alun-Alun, ou bien la grande place de la ville de Probolinggo, ainsi que le jardin de Manula ou le jardin des personnes âgées. Après la visite de ces objets touristiques, s'il vous plaît, continuez votre visite par la dégustation des cuisines typiques de Probolinggo. L'une d'elles est le Ketan Kratok. Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans le magazine culturel Persona Indonesia. Pour aujourd'hui, nous vous présentons un plat de Probolinggo en province de Java Est, nommé Ketan Kratok. Et alors, soyez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie, le service international de RRI. Outre par les zones courtes, vous pouvez écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Il y a tellement de nombreux objets touristiques intéressants dans la ville de Probolinggo, donc vous pourrez profiter si vous visitez cette ville, comme par exemple le parc des études environnementales, le port de Tanjung Tembaga, Alun-Alun ou la grande place de la ville de Probolinggo, ainsi que le jardin de Manula ou le jardin des personnes âgées. Après la visite de ces objets touristiques, s'il vous plaît, continuez votre visite par la dégustation des cuisines typiques de Probolinggo, c'est le Ketan Kratok. Le Ketan Kratok est de riz gluant, cuit avec un mélange de fèves qui s'appelle Kratok, en langue de Madura. Ketan Kratok est servi avec la noix de coco râpée et saupoudrée de sucre brun. Et pour le sucre brun, cela dépend de votre goût. Parfois, certaines personnes ne veulent pas de sucre brun versé sur leur riz gluant. Il y en a qui demandent que leur riz gluant soit saupoudré de sel. Lorsque vous mangez cette nourriture, le goût de riz gluant est réellement délicieux. Mais combiné avec le kratok, il sera encore plus savoureux. Si vous ajoutez du sucre brun au riz gluant, vous pourrez alors profiter des goûts sucrés salés. La combinaison des goûts salés et sucrés du riz gluant de kratok procure une expérience culinaire bien agréable. Pour cuisiner le ketan kratok ou le riz gluant de kratok, il faut des kratok ou des fèves qui ont été érochées puis bouillies. Après avoir été portées à ébullition, elles sont ensuite enlevées brièvement de la casserole puis cuites à nouveau et cela jusqu'à 5 fois. Après que les fèves sont cuites séparément pour la 6e fois, elles seront cuites à la vapeur avec du riz gluant en utilisant un poêle et du bois comme combustible pour que le riz gluant de kratok soit plus délicieux. Le processus de cuisson jusqu'à 6 fois vise à éviter la mauvaise sens dans la cuisine. Si le ketan kratok est cuit dans un mauvais sens, il peut donner des maux de tête à ceux qui le consomment. Vous pouvez profiter du riz gluant de kratok sur les étals de la ville de Probolinggo. Vous pouvez acheter cette nourriture le matin à partir de 4h jusqu'à 10h. C'est parce que le ketan kratok est pris comme le petit déjeuner typique par les habitants de Probolinggo. Pour le rendre encore plus délicieux, profitez d'une assiette de ketan kratok qui est vendue 2 500 rupiah. Si vous l'accompagnez d'une tasse de café ou de thé, vous devrez alors payer 1000 rupiah de plus. Quel bon petit déjeuner quand ketan kratok avec une tasse de thé ou de café. Chers amis, c'était le magazine culturel Persona Indonesia pour ce soir avec le titre Ketan Kratok, un plat typique de Probolinggo. Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs de la Voix de l'Indonésie, c'est moi, Wimanata Kusuma, et je suis ravi de vous revoir ici dans le programme Indonésie en couleurs. Dans cette édition, je vais vous présenter une information sur lapis legit, un gâteau traditionnel qui appartient à 14 gâteaux traditionnels les plus délicieux du monde. Donc, veuillez rester ici à www.voi.co.id. Voici une bonne nouvelle du domaine culinaire de l'Indonésie. Récemment, l'une des richesses culinaires de l'archipel, Lapis Legit, a été considérée comme les 14 gâteaux traditionnels les plus délicieux du monde, selon CNN. Lapis Legit, un gâteau d'origine indonésien, est considéré à posséder la saveur très riche. où 18 doux gâteaux épongés sont empilés et ensuite sont comprimés en une seule. La saveur riche de beurre rend la pisse-le-guide est populaire pour tout le monde. En plus de la pisse-le-guide, il y a également plusieurs gâteaux traditionnels qui ont été posés par CNN comme les plus délicieux, y compris tiramisu de l'Italie, Black Forest de l'Allemagne et dorayaki du Japon. La pisse-le-guide est un gâteau multicouche qui a un arôme unique, nommé lapis-legit car le gâteau contient des couches, ou lapis en indonésien, avec des textures dures, ou legit en indonésien. Ce gâteau d'origine indonésienne a en fait une longue histoire. Ce gâteau étant riche en œufs et rhum butter, a un lien très relatable avec les Hollandais. Au début, c'était les Indes néerlandaises qui faisaient ce gâteau. Ils utilisent des épices uniques indonésiennes pour faire le lapis-legit. Au passé, ce gâteau s'appelait spekoek, tiré de la langue néerlandaise. Spek signifie le sein du, qui est visiblement des couches, et koek signifie une éponge. On l'appelait bolu lapis, ou l'éponge aux couches en français, mais il s'appelle maintenant lapis-legit. Sa forme qui est en couche et aussi les matériaux de base qui contiennent un grand nombre d'œufs et de beurre font la pisse-le-guide ressembler à une couche de sein d'œuf, ainsi nommée spekoek. La pisse-le-guide est très populaire dans les communautés indonésiennes. Les Indonésiens s'habituent à présenter ce gâteau en couche régulièrement dans diverses grandes fêtes, telles que la fête de l'Eid al-Fitr, le Nouvel An chinois, les mariages, etc. Pour les Chinois indonésiens, la pisse-le-guide devient un plat obligatoire et aussi spécial, car ils apparaissent seulement aux grandes fêtes comme le Nouvel An chinois. Il devient donc tout à fait exclusif. D'autres raisons qui rendent la pisse-le-guide un gâteau exclusif est les matériaux. À part des épices indonésiennes, l'origine de la pisse-le-guide utilise originalement le rhum butter, pas la margarine. C'est le rhum butter qui est le matériel patrimonial des Pays-Bas. Chers amis, voilà cette édition de Indonésie en couleur dont le sujet est lapis-le-guit, un gâteau traditionnel qui appartient à 14 gâteaux traditionnels les plus délicieux du monde. Nous vous reverrons une autre fois avec des sujets aussi intéressants. Au revoir.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous sommes de nouveau ensemble dans la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et le message. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Cette fois, nous présenterons des chansons pop chantées par le groupe de musique Padi. Le groupe a été formé le 8 avril 1997. Ses membres se composent de Ari comme guitariste, Fadli Santer, Yoyo Batter, Rindra bassiste et Piu guitariste. Le groupe de musique Padi a commencé leur carrière dans la musique indonésienne à la fin des années 1990. Le genre de musique est pop rock créatif. Leur premier single est une chanson intitulée Sobat ou Mon Ami, inclus dans l'album de compilation Indie Ten. Cette chanson est considérée comme une nouvelle couleur dans la musique indonésienne. Depuis lors, le groupe de Padi a commencé à être connu en Indonésie. Son premier album, intitulé Dunia Lain ou Un autre monde, a été sorti en 1990 et a reçu plusieurs prix. Bon, chers amis, on écoutera une chanson du groupe Padi intitulée Semua tak sama.
Dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu. Redup terasa cahaya hati mengingat apa yang telah kau berikan. Sudah
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et c'était la première chanson du groupe Musik Padi intitulée Semua Tak Sama. Et la chanson que vous avez écoutée existe dans le deuxième album intitulé Sesuatu Yang Tertanda ou Quelque chose qui a marqué. Cet album a été sorti en 2001. La chanson raconte le voyage de la vie qui se sent lourde car il doit retirer un être cher. Une autre chanson de l'album est Kasih Tak Sampai. Bon, chers amis, maintenant je vais saluer nos auditeurs. Je voudrais profiter de cette occasion de remercier pour les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et le message. Bonjour à Maurice Mercier, 537 rue François Guiraud, Villefranche, La France et Roger Roussel, 31 rue de la Source, Le Goulet NB et 8S IZ4, le Canada. Un grand merci à vous et restez fidèles à notre émission. Bon, chers amis, écoutez maintenant la deuxième chanson intitulée Kasih Tak Sampai, chantée par groupe de musique Padi.
Thank you.
merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes toujours avec nous. RRI World Service, la voix de l'Indonésie. C'est une chanson intitulée « Kasih Tak Sampai ». Cette chanson décrit un souvenir très douloureux et Padi continue de travailler et sortir de nouveaux albums. Ce groupe est de plus en plus célèbre, prouvé par les nombreux prix qu'il a reçus. En 2011, Padi a publié le single intitulé « Tempat Terakhir » ou « Dernière Place » et depuis ce temps, il n'a pas encore sorti un album jusqu'à maintenant. Bon, chers amis, meilleures salutations à Merdin Murad, Nakmuji Nuari, boîte postale 154 Bissetif, 19000 Algérie, Jean-Marie Monplot, à 409 Faubourg Montmélian, 73000 Chambéry, La France, Christian Gibodo, rue Gaston Charbonnier, 06300 Nice, La France, et Hamidou Wambi, PO Box 997 Tambora, Tanzanie. N'oubliez pas, je vais dire bonjour à Jean Barba, 168 Avenue du Stade, 63110 Beaumont, La France. Comment ça va, mes amis? J'espère que vous êtes tous en bonne santé et restez toujours en contact avec nous. Merci de continuer à suivre nos programmes. Bon, on écoutera des chansons suivantes intitulées Begitu Indah et Sobat. Tous les deux sont chantés par groupe de musique Padi. Et voilà, chers amis, c'est la fin de ce courrier. À la semaine prochaine, restez sur la voie de l'Indonésie.
Chers amis, c'est la fin de notre émission en français de la Voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.